Bonjour à tous. Alors c'est vraiment une joie d'être ici et c'est magnifique de voir tous ces fruits, ces céréales, ces produits transformés, ces confitures, ces pains, tout cela que le Seigneur nous a donné. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une parabole qui parle aussi de récolte. Alors mais c'est une récolte de quelque chose que je m'attendais à voir ici et que je ne vois pas. Du moins pas directement.
Le blé.
Le blé. On a de l'avoine, on a du sorgho. Alors si, on a du blé dans le pain. Du blé quand même transformé.
Dans les pâtes.
Dans les pâtes aussi, voilà. Mais on n'a pas de gerbe de blé. Mais c'est pas grave. Hein. Tout le monde voit à quoi ressemble du blé. Et il y a aussi des plantes, dans la parabole dont je vais parler, des plantes qui ressemblent au blé. Mais qui ne sont pas du blé. Alors ça s'appelle l'ivraie. Donc l'ivraie, je ne suis pas une experte, hein. Je suis fille d'agriculteur, mais j'oublie beaucoup de choses. Hein. Mais l'ivraie, ça ressemble apparemment, jusqu'au moment où il y a du fruit, ça ressemble beaucoup au blé. Et bon, un expert saura faire la différence, mais quelqu'un comme nous a beaucoup de chance de se tromper et de confondre. Donc on va lire dans Matthieu 13, à partir du verset 24, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et un peu plus loin dans ce même chapitre, il donne l'explication. Il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà la parabole. Et je vous propose de relire le début en faisant un parallèle avec un autre texte de la Bible. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans les narines et l'homme devint un être vivant. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait faits. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» On a vu tout à l'heure que c'était le contraire. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema de l'ivraie de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Adam connut sa femme Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi t'es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Donc on voit que cette parabole, c'est l'histoire de l'humanité, le début de cette parabole. Dieu a créé l'homme bon, il l'a mis sur la terre, il lui a dit « Multiplie-toi, multipliez-vous, comme le blé qu'on met en terre qui doit se multiplier, donner des fruits. » Il lui a donné le souffle de vie et il a dit que cela était très bon. L'homme que Dieu a créé et placé dans le monde était très bon. Mais un ennemi est arrivé, le diable qui est représenté dans la Genèse par le serpent. Oui, il y a un ennemi. Parfois, on n'aime pas parler du diable, on n'aime pas parler du fait qu'il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui veut du mal à l'humanité. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais ce n'est pas l'objet de ce jour. Le fait est qu'il y a un ennemi qui veut du mal, qui veut du mal à Dieu, qui veut du mal à l'humanité. Et cet ennemi a semé de la mauvaise herbe. Il a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit cette graine de mauvaise herbe ? Et cette mauvaise herbe se développe dès les premiers fruits, dès les premiers enfants de Adam et Ève, la mauvaise herbe apparaît à côté du blé. Il y a le blé, il y a la belle offrande qu'Abel a faite et qui a été agréée par Dieu. Mais il y a aussi juste à côté le meurtre commis par Caïn. Une humanité bonne, corrompue par l'ennemi de Dieu. Et qui se retrouve exposé au mal. Bien et mal s'entremêlent. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Les serviteurs, ils regardent ces champs et ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or parfois, Je ne sais pas, peut-être qu'il voyait des taches plus sombres ou plus claires, ou que tout n'avait pas la même hauteur, ou tout. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas normal, pas comme d'habitude. Et parfois, nous, on voit certaines choses, on dit, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai du mal à savoir quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, quand on voit certaines choses, parfois on veut aller traiter le problème. Et plus on s'approche, bah, moins on voit le problème, parce qu'on le voit à grande échelle, mais finalement, est-ce que ce brin d'herbe-là, celui-ci c'est du blé ou c'est de l'ivraie ? Quand il est tout seul, j'arrive pas à trop voir, et puis je ne maîtrise pas, moi je ne vois pas au fond, voilà, est-ce que j'arracherai le bon ? Et c'était la crainte de l'Éternel, qu'en voulant aller arracher grain par grain, on arrache le mauvais. Et puis il y a autre chose, quand les plantes sont jeunes, fragiles, elles ont souvent des racines un peu faibles, qui circulent un peu en surface, qui ne sont pas bien ancrées, et puis qui s'accrochent aux racines à côté. Donc en arrachant la mauvaise herbe, il y a des chances qu'un peu les racines fragiles à côté soient accrochées après, et qu'on arrache, et mince, on amène aussi ce qui est bon. On l'a tous fait, hein, dans jardinant un peu, on a tous voulu faire trop bien, enlever la petite mauvaise herbe, et puis il y a tout qui est parti avec. On se retrouve avec une motte de terre, et puis là, enfin bref. Et ça, je pense qu'on s'en rend compte. Et Jésus, il voulait pas ça, Dieu voulait pas ça. Dieu voulait pas qu'on arrache le bon avec le méchant. Il y a une chose aussi que Dieu aurait pu faire, hein. Il aurait pu dire, ouh là là, il y a de la saleté dans mon champ, je brûle tout, je recommence. Mais il n'a pas voulu ça, parce qu'il savait qu'il y avait du bon blé. Il en avait besoin de ce bon blé. Il en avait besoin pour sa récolte. Donc Dieu a dit, non, on va laisser croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie. Mais avant d'en arriver à ce passage, il y a aussi une question sur la moisson. Il y a un autre passage où Jésus parle de la moisson qui blanchit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Alors, ce verset, à votre avis, il se trouve où ? Ou plutôt, je vais tourner la question autrement. Quand Jésus dit aux disciples, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson, votre avis, les disciples, c'était au sens propre, je pense aussi, qu'ils disaient levez les yeux. Les disciples, ils ont levé les yeux. À votre avis, est-ce qu'ils ont vu des champs de blé ou qu'est-ce qu'ils ont vu ? Alors, si vous savez où se trouve ce passage, vous aurez une réponse, mais... Enfin, moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Pardon ?
Des anges, je
dirais. Non, ce n'est pas des anges. Enfin, ce texte se trouve juste après l'histoire de la Samaritaine, la rencontre avec Jésus, avec la Samaritaine. Et donc, Jésus a parlé à la Samaritaine, et elle est retournée dans le village. La femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, ne serait-il pas le Messie ?» Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et ce verset où Jésus dit « Regardez la moisson », il arrive juste après cela. Et quand les disciples ont levé la tête, ils ont dû voir cette foule qui arrivait, cette foule samaritaine, ces gens qui n'étaient pas juifs, hein, qui étaient privés de salut si on se base sur l'Ancien Testament. Et là, ils ont vu ces gens arriver. Et après avoir parlé de cette moisson, quelques versets après, c'est marqué « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus ». Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Jésus voyait dans ces hommes samaritains, perdus a priori, il a vu de la moisson qui arrivait, il a vu de la moisson qui blanchissait, il a vu le fruit qui arrivait, et effectivement ces hommes se sont convertis. Donc Jésus voit au-delà et nous invite aussi à voir au-delà de ce... Peut-être, nous, on aurait cru que c'était de l'ivraie, ces gens-là. On aurait dit, c'est de la mauvaise herbe. Parce que quand on voit ce que la Samaritaine a vécu avec plusieurs maris, avec des gens qui n'étaient pas son mari, enfin voilà, on aurait sûrement dit fou. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Jésus a vu la moisson qui blanchissait. Et je pense qu'il nous invite aussi à regarder au-delà. On dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous avons besoin qu'il nous aide à discerner. Nous devons veiller à ne pas être des juges trop rapides. Quand on regarde l'humanité, on voit qu'il y a du mal dans l'humanité. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais quand on regarde un groupe, un être humain, est-ce qu'on peut dire « Ah ben lui, il est mauvais ?» Non, c'est lui qui apporte le mal dans le monde. Non. Enfin, je pense à personne, on est capable de dire « Lui, ça, lui, il est bon, il apporte que du bien dans le monde. Lui, il est mauvais, il apporte que du mal. » Non. Donc, ce n'est pas à nous de juger. Et puis, peut-être en excluant quelqu'un, sa famille partira avec. Et dans la famille, il y a peut-être des belles jeunes pousses et qu'on empêchera de pousser parce qu'on a rejeté quelqu'un. Alors, c'est facile à dire hein, parce qu'en même temps, Dieu nous dit de rejeter le mal. Et il demande aussi qu'il y ait de la discipline dans l'Église, enfin qu'on dise les choses. Mais en même temps, Nous ne sommes pas les juges finaux. Seul Dieu peut être ce juge. Nous avons besoin de sa sagesse pour discerner. Et aussi de la patience pour intervenir au bon moment. Et aussi de la douceur pour enlever le mal, traiter le mal, mais en limitant les blessures autour. Si on y va à la pelle pour enlever un petit brin d'herbe, on va arracher tout ce qu'il y a autour. Si on va avec douceur, on peut limiter les dégâts. La patience de Jésus. Attendre le temps de la moisson. Il leur dit d'attendre. Alors, tout agriculteur, ou même, j'ai envie de dire, tout cultivateur de jardin, sait qu'il faut attendre le bon moment pour récolter. Pour le blé, alors si on veut le meilleur rendement, il faut attendre le plus longtemps possible. Mais en même temps, il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce qu'après, il risque de se dessécher ou alors l'orage risque d'arriver. Ça, c'est un grand classique. Hein. On moissonne toujours un jour avant l'orage et tout le monde est énervé. Mais bon, voilà, il faut toujours faire. L'agriculteur attend le plus longtemps possible pour que ce soit le bon moment, pour qu'il y ait le meilleur rendement, le plus de grains. Mais aussi pour que les grains soient bien pleins. Pour que ce soit des grains qui nourrissent, qui aient du contenu. Il ne faut pas qu'il soit trop sec ni trop gorgé d'eau parce qu'il risque de pourrir après. Attendre ce bon moment. Et Dieu fait pareil avec nous, avec l'humanité. Il attend le plus longtemps possible pour que le plus grand nombre puisse venir à lui. Dans 2 Pierre, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu attend. Parfois, on aimerait qu'il vienne en disant « Maintenant, reviens, juge le monde, détruis le mal et puis prends-nous. » Mais là, Dieu il dit « Non, j'attends encore pour en sauver le plus possible. » Et en même temps, peut-être pour que nous, enfin que ceux qui l'ont déjà choisi, arrivent à maturité. Ce ne soit pas seulement des petits grains tout creux, mais qu'on soit bien plein, qu'on soit plein de l'esprit. Et soyons sûrs que le jour de la moisson arrivera, et qu'il arrivera comme un voleur dans la nuit. C'est le verset juste après de celui que je viens de lire qui dit que Dieu fait preuve de patience envers nous. Mais en même temps, il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est vrai que quand on est agriculteur, souvent la moisson, c'est 2 jours avant, on dit « Allez, maintenant, il faut y aller. » Et puis, c'est dans l'urgence, mais c'est le métier qui veut ça. Et le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce jour-là, Dieu demandera aux anges de commencer par arracher l'ivraie, la lier et la brûler. Donc. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pas un moment de fête, ce début de moisson. Lorsqu'un agriculteur doit brûler la moitié de son champ parce qu'il y a des maladies, il est triste. Lorsqu'il doit jeter parce que certaines choses n'ont pas mûri, on pourrit sur pied, ça arrive après un orage, quand il y a une grêle sur des vignes, on sait que beaucoup de choses doivent être jetées. Ça arrive dans des élevages aussi, quand il y a une maladie, mais on doit tuer le troupeau pour sauver d'autres. Et tout ça, c'est un crève-cœur pour l'agriculteur. Et dans notre pays, c'est peut-être un peu moins sensible, mais quand un cultivateur perdait la moitié de sa moisson, mais il se demandait, est-ce que je vais pouvoir manger cet hiver ? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille ? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la prochaine récolte ? Devoir jeter une partie de la récolte, c'est toujours difficile. Et peut-être pour un exemple qui nous concerne plus, nous, les gens modernes, quand on achète des fruits, parfois on achète un beau panier de fruits et dedans il y a une cerise pourrie. On la mange, voilà. On dit, ah ben, je les mangerai demain tranquillement. Et le lendemain, il y a la moitié du panier qui est pourri. Et ça fait mal au cœur de jeter. Et ça montre à la fois aussi la propagation du mal. Parfois, une seule chose pourrie peut contaminer le reste. Et on doit jeter la moitié. Et on voit tous que... Alors, c'est à petite échelle, mais ça, voilà, on se dit, ah, c'est quand même dommage. Et là, imaginez Dieu qui voit disparaître une partie de ses enfants. Ceux à qui il avait donné le souffle de vie, ceux qui l'avaient tant aimé, mais ceux aussi qui ne l'avaient pas aimé en retour, ceux qui avaient choisi de vivre sans lui. Oui, le jugement est une réalité, et Dieu respecte nos choix. Si on ne veut pas de lui, ben il respectera notre choix, il nous dira, tu ne veux pas que je vienne dans ta vie, que j'intervienne, et ben je te laisse. Il faut avoir conscience des conséquences. Oui, c'est pas très joyeux, hein, c'est pas très fête ce que je raconte, mais c'est une réalité. Le jugement existe. La première étape de cette moisson est douloureuse. Ceux qui n'ont pas choisi le Seigneur sont perdus. La seconde étape de la moisson consiste par contre à ramasser le blé et à le rentrer dans le grenier. Alors c'est un travail difficile, mais aussi, c'est aussi la concrétisation de toute une année et une promesse pour l'avenir. Voir tous ces grains dorés couler pour remplir un silo. Alors je sais que nous, quand on faisait la moisson, mon papa il vidait la benne, on voyait tout le blé couler, et puis il le prenait à la main, il regardait... Voilà la consistance, est-ce qu'il est beau, est-ce que les grains sont bien pleins. Il en croquait quelques-uns, voilà, pour voir. Et c'était une joie. Alors, c'était une journée chargée, mais c'était une joie de voir tous ces grains, de voir les silos se remplir, de dire, ah ça y est, j'en ai rempli déjà un, je peux remplir l'autre. Une bénédiction, la moisson. Et là, toujours dans le même texte, en parlant de la moisson, Jésus dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Ceux qui ont cru en Dieu sont les enfants du royaume et ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de notre Père, de Dieu. Il y aura une grande fête au ciel le jour de la moisson. S'il est dit dans la Bible qu'il y ait de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, alors c'est inimaginable la fête qu'il y aura lorsque Dieu réunira tous ses enfants, rassemblera tous ses enfants, tous ceux qui ont cru en lui. Ça, c'est la vraie fête, ça, c'est la vraie moisson. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous une des semences. Dieu nous a tous plantés, nous a tous donné le souffle de vie, nous a tous aimés, nous a tous trouvés très bons. Et en terre, contrairement à la plante que l'on met en terre, on met une semence de carotte, c'est une carotte qui pousse. On met une semence de blé, c'est du blé qui pousse. On met de l'ivraie, c'est l'ivraie qui pousse. Mais là, Dieu nous a plantés et nous, nous avons le choix de ce que nous voulons devenir. Nous pouvons décider de devenir des beaux grains de blé. Ou nous pouvons refuser et rester des mauvaises herbes. Les conséquences sont claires. Du bon blé, des enfants du royaume, ou de l'ivraie, des enfants du mal. Le choix est le nôtre. Choisis la vie afin que tu vives, c'est ce que le Seigneur dit. Choisis la vie afin que tu vives. Soyons des enfants du royaume, des grains de blé qui donnent du fruit. Le blé est aussi censé nourrir l'humanité. Alors on voit, il y a beaucoup de choses sur les repas ici. Et nous pouvons nous interroger sur notre rôle en tant que grain de blé, en tant qu'Église, sur de quelle manière nourrissons-nous l'humanité. Et il y a quelque chose à faire au sens concret. Il y a des gens qui ont faim, qui ont perdu leur travail pendant cette pandémie. Il y a des pays où la sécheresse ou les pluies ont tout détruit les récoltes, où il y a quelque chose à faire au sens concret pour nourrir l'humanité. Et il y a aussi quelque chose à faire au sens spirituel. Comment témoignons-nous? Comment nourrissons-nous les autres avec les paroles du Christ? Comment utilise-t-on nos biens, nos gains de l'année, nos talents, nos dons? Le fruit de l'esprit que Dieu nous donne, qui comprend notamment l'amour, pour faire du bien autour de nous, pour faire du bien aux autres. Et une autre chose concernant le blé, c'est que dans une récolte, alors maintenant le système est un peu plus compliqué, mais le principe à grande échelle reste le même, c'est qu'on met toujours 2 ou 3% de côté qui serviront de semences pour l'année suivante. Donc il y a des gens dans nos communautés qui ont des missions particulières, qui auront une mission d'être ressemés sur la terre, un rôle particulier sur la terre, d'aller avec l'ivraie, d'aller avec dans le monde, d'avoir un témoignage dans ce monde, d'être planté peut-être dans des conditions difficiles. Le grain de blé, après tout, il meurt avant de donner du fruit. Mais peut-être certains d'entre nous sont appelés à avoir une mission particulière dans ce monde, à être au plus près du terrain, à témoigner et à porter du fruit d'une manière différente. La mission et la moisson, ça se ressemble comme terme. La moisson, la mission. Et pour conclure, je vais juste vous poser une petite question qui me trottait dans la tête pendant la réflexion, parce que j'avais du mal à mettre les choses en place, parce que est-ce qu'un grain de blé peut devenir un moissonneur? Parce que finalement, Dieu nous dit qu'il nous appelle à être ouvriers dans sa moisson, et en même temps, pour moissonner des grains de blé qui sont aussi des plutôt chrétiens, donc voilà, c'était un peu le paradoxe, mais ça, c'est la limite des images. Un grain de blé peut-il devenir moissonneur? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le verset suivant. Puis Jésus appela les 12 disciples. Et ensuite, on voit le récit où il les envoie en mission. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as aimés, tu nous as donné le souffle de vie, tu as fait une création très bonne, tu as fait les hommes très bons. Mais oui, Seigneur, nous avons conscience de cette réalité que le mal est venu dans ce monde, a corrompu, a pourri les choses, a créé de la mauvaise herbe du mal. Et toi, dans ta grandeur, tu as décidé de ne pas tout détruire, mais de donner sa chance à la semence, à la bonne semence, de grandir. Oui, nous avons le choix de te suivre ou non. Et merci de nous donner ce choix. Par Jésus, mort et ressuscité, nous avons le pouvoir de devenir des enfants du royaume, si nous croyons en toi. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour tous ceux qui ont déjà cru en toi, tous ces enfants du royaume, mais surtout pour tous ceux qui ne croient pas encore en toi. Veuille les transformer. Veuille leur faire prendre conscience de l'importance de ce choix, qu'il n'y a pas d'autre issue, qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors de toi. Nous te prions pour nos proches qui ne t'ont pas encore choisi. Nous te prions pour nos voisins, pour notre ville, pour l'humanité. C'est encore un temps de grâce. Et Seigneur, comme tu le demandes, nous te prions aussi d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Que ceux qui ont un appel particulier puissent se sentir encouragés à aller dans cette moisson. Et que chacun de nous, à notre place, nous fassions notre part. Nous puissions aussi travailler pour que la moisson soit grande. En nous rappelant toujours que ce n'est pas celui qui sème qui est quelque chose, ni celui qui récolte, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Amen.